du vent dans les pages.
Pourquoi j'écris ? Enfin, je dis quelquefois parce qu'on m'a dit d'écrire.
Nous vivons quand même un temps où la chose écrite compte de moins en moins, à cause probablement du brouhaha général.
Simplement, l'écriture sèche, nue, comme ça. Terrible.
Qu'est-ce à dire ? Si ce n'est que partout où la colonisation s'est manifestée, des peuples entiers ont été vidés de leur culture, vidés de toute culture.
Bah, finalement, il ne tient pas tellement la bouteille, cet écrivain américain.
Un anti-parlementaire.
Voilà, un muet, c'est un anti-parlementaire.
Un muet, c'est un anti-parlementaire.
Mais un athée.
Un athée, c'est un anti-moine.
Voilà, un croyant.
Aucun croyant, c'est un antiseptique.
Voilà. Et les Arabes du Caire
sont antisémites.
Et les sémites
sont anti-caire.
Voilà.
Je crois que ma vocation est nulle et qu'au fond, j'obéis aux autres, mais pas à moi-même.
Salut à vous, chères auditrices, lecteurs et vice-versa. Du vent dans les pages, quatrième et numéro un de cette nouvelle année. Et oui, comme le temps passe. Et non, je ne vous souhaite pas meilleurs vœux, rien de personnel. Cette année, j'ai décidé d'être prudente. En revanche, pour cette quatrième émission, disais-je, je vous propose de retrouver nos agents au risque de la chronique, Alice et Alex, un plateau d'invités amoureux de polar, et enfin, direction le Portugal en poésie. Alors, déconnectez-vous le temps d'une pause littéraire, tranquille, sur Studio Zef.
Page volante, aventures et mésaventures littéraires.
Par Alex Dozier.
De nombreux écrivains ont de tout temps utilisé un pseudonyme, ce que l'on appelle un nom de plume, afin de masquer leurs véritables identités pour différentes raisons. La plus évidente est lorsque leur nom est trop banal ou au contraire trop imagé. Imaginez le rivage des Sirtes de Louis Poirier et non de Julien Gracq, ou les particules élémentaires de Michel Thomas plutôt que de Michel Houellebecq, ou les chants de Maldoror signés par Isidore Ducasse et non sous la plume du comte de Lautréamont. La seconde raison réside dans une francisation du nom ou à des fins de protection évidentes. André Mauroy pour Émile Herzog, Daniel Pénac pour Daniel Pénacchioni, Henri Troya pour Lev Aslanovitch Tarasov, Vercors pour Jean Brulaire. La troisième raison provient du fait de ne pouvoir utiliser son nom pour des raisons familiales ou professionnelles. Courteline, dont le père, écrivain et auteur de théâtre, pensant avoir plus de talent que son fils, lui interdit d'utiliser le nom de Moineau. Françoise Sagan et Philippe Solers, encore mineurs au moment de leur premier roman, et n'ayant pas eu l'accord parental, Éric Orsenna ou Saint-Jean-Perse, hauts fonctionnaires ne pouvant révéler leurs identités. Il y a ceux également qui prennent un pseudo sur un pseudo, comme Émile Ajar sur Romain Gary, qui était déjà un pseudo, ou un anagramme sur leur nom, Yourcenar, provenant d'une partie du nom de Marguerite Klenwerk de Crayencourt. Il y a aussi ceux qui écrivent sous des noms différents car ils publient des œuvres appartenant à des genres trop éloignés. Et puis, il y a tous ceux qui n'aiment pas leur nom, comme Marguerite Duras qui haïssait son véritable patronyme de Donadieu, ou au contraire qui l'aime trop et préfère vivre une autre vie comme celle des héros qu'il raconte. Une sorte d'auto-écriture de soi-même. Je suis celui qui vit la vie de l'auteur, qui écrit la vie de quelqu'un. Ça n'est pas une forme de schizophrénie, d'aliénation ou de dédoublement de personnalité, mais plutôt le recul nécessaire pour parler d'un autre. Une forme de distanciation obligatoire pour écrire sur soi, sur un autre, sur une époque ou la société. Mais peut-être le meilleur moyen d'écrire pour soi en lisant le texte d'un autre. Le roi du pseudonyme fut de toute évidence Romain Gary, de son vrai nom Roman Kassiev. Être naturellement tourmenté, il donna tout au long de sa vie de fausses informations sur ses origines, sa famille, sa jeunesse. Il obtint le prix Goncourt en 1956 pour Les Racines du Ciel et il parvint à l'obtenir une seconde fois en 1975 avec La Vie devant soi sous le pseudonyme d'Émile Ajar. Il nia écrire sous ce pseudo en affirmant que c'était celui de son neveu. La supercherie, si l'on veut considérer Gary comme un plaisantin, ou la mystification si l'on considère plutôt son côté sombre, ou encore la renonciation au moi si l'on se réfère à la souffrance permanente de Gary. Il partit avec son secret, ou plutôt s'en délivra. En tout cas, si vous souhaitez avoir une chance plus forte de devenir un écrivain à succès, prenez un nom de plume. D'ailleurs, l'Alex Dozier qui vous parle, n'est-il pas le pseudo d'un auteur inconnu ?
vent dans les pages continue sur Studio Zef après la trompette inquiétante et magnifique de Miles Davis, en guise de transition vers notre sujet du jour, le roman policier. Familièrement appelé polar, le roman noir est aujourd'hui un genre majeur de la littérature. Des années 50 aux années 80, on achète son petit polar pour partir en voyage. C'est le roman de gare vite écrit, vite lu. À présent, nous avons une cinquantaine de festivals polars en France, des dictionnaires, revues et blogs spécialisés. Nous pouvons assister à des conférences sur le sujet, lire des thèses d'universitaires et presque tous les éditeurs veulent leur collection noire. Alors pour parler du sujet, j'ai le plaisir d'avoir autour de la table aux libertés trois lecteurs passionnés du genre, Corinne, Franck et François. Bonjour à tous les trois.
Bonjour.
Ça va ? T'es bien installé, Franck ?
Oui, ça va.
Oui, je disais tout à l'heure que le casque t'allait vraiment à merveille.
Merci.
Ah oui, non, je t'assure, si t'avais des cheveux, ça aurait pas fait pareil.
Merci.
Merci, merci. Je t'ai plus. Voilà. Alors, François, j'allais dire, tu nous accueilles chez toi, mais en fait, ça y est. C'est le Liberté.
C'est plus chez moi.
C'est plus chez toi ?
C'est plus chez moi.
Bon, c'est quand même un peu... voilà.
Je m'invite.
Tu t'invites.
Je m'invite.
Ouais, mais c'est bien parce que tu as du temps pour faire de la radio avec nous et ça, c'est pas mal.
Voilà, ça, c'est bien. Puis je vais avoir du temps pour lire aussi. Ça, c'est une bénédiction.
Ouais. Exactement. Bah, Corinne, tu es voisine du Liberté.
Mmh, hein, tout à fait,
donc,
ouais.
Voilà, tu n'es pas loin. Alors, je voulais vous commencer pour, avant d'entrer dans le vif du sujet, et de parler des livres que vous avez amenés, parce que vous en avez amené un petit peu quand même, au travers de témoignages en fait, d'auteurs de polar. Je trouvais intéressant, il y avait quelque chose qui ressortait, qui était assez frappant. Les écrivains disaient « Le polar est une évolution du roman du XXe siècle », en faisant référence un peu à Balzac, Zola, dans le sens d'une continuité de la description de la société contemporaine. C'est-à-dire, ça continue... à décrire la société dans laquelle nous vivons avec toutes ces couches sociales, mais peut-être avec un petit changement aujourd'hui, c'est qu'il y a plus de violence. Je voulais savoir si vous étiez, au travers de vos lectures, si vous étiez d'accord avec cette théorie. Voilà,
oui,
François.
Oui, tout à fait. Je trouve que le polar, en ce moment, c'est le lieu dans la littérature où on a le plus de faits de société, où on suit le plus en direct l'évolution des mœurs. La violence, oui, il y en a. Il y en avait aussi au 19e, mais on ne l'exprimait pas de la même façon.
Oui.
Voilà.
Oui. Et Franck, est-ce que ça t'évoque la même chose ?
Ouais, enfin... Oui, et puis on peut dire aussi que dans... Enfin, pas que dans le style polar aussi, on trouve des sujets de société aussi, dans les romans classiques aussi, d'aujourd'hui. Donc oui, mais d'un point de vue violence, oui, effectivement. En plus, je trouve qu'il y a quand même une escalade. Les auteurs cherchent à être plus originaux encore aujourd'hui dans les meurtres et les descriptions des scènes de crime, quoi, par exemple.
Plus originaux, c'est-à-dire ils font preuve d'inventivité exacerbée.
Je trouve, oui.
C'est vrai, t'as cette impression-là.
Ouais.
Et puis, il faut dire aussi que techniquement, on n'aborde plus du tout le meurtre comme au 19e. Maintenant, il y a toute la police scientifique derrière. Il y a tout, donc, forcément, on a des descriptions autres.
Ouais.
Avec Corinne, des moyens scientifiques qui permettent de faire des enquêtes sous un autre angle, sous un autre œil, les moyens Internet, les moyens technologies, fait que oui, on voit autrement.
Mais il y a peut-être une base qui reste justement à travers cette fenêtre qu'a la littérature en général sur le monde dans lequel nous vivons, avec cette lunette un peu particulière du roman noir, à l'opposé, alors on fait opposition au roman blanc, on appelait ça le roman blanc, donc l'autre littérature. Voilà, donc voilà, c'est un peu schématique, mais en gros, ça se passe un peu comme ça, quoi. Alors, François, je te sens prêt là pour nous parler d'un bouquin là qui est devant toi.
Eh ben, allons-y.
Allez, vas-y, lance-toi.
Je vais vous parler de Territoire d'Olivier Norek. Olivier Norek, c'est un auteur français qui écrit un polar qui se passe dans le 93 et c'est toutes les magouilles entre politique et petits délinquants de façon à quelque part à gruger l'État pour obtenir des subventions pour changer ce qui se passe dans les banlieues. On essaie d'avoir des subventions de l'État qu'on détourne après. Donc c'est une belle description de C'est à la fois du monde politique et des banlieues.
Voilà. C'est un ancien flic, Olivier Norek. C'est ça, c'est un ancien flic. Voilà.
Oui.
Donc parce que moi, j'ai parfaitement.
Bien
voilà, moi
le
aussi, j'ai reconnu les endroits, j'ai reconnu les lieux, et tout à fait véridique, quoi. C'est complètement ça.
Franck, tu disais.
Parce que quand on explique justement pour avoir une paix sociale, c'est-à-dire qu'il y en a qui tiennent les quartiers.
Est-ce que ça fait appel à quelque chose de connu là ? Non, rien de. Pas, moi, ça me fait penser
qu'est-ce
à un truc pas très vieux.
Par là.
Comment acheter la paix sociale dans les quartiers chauds ? Les hommes politiques, il n'y en a pas qui ont déjà fait ça ?
Oui, non, mais c'est un mécanisme qui. Et là, on place des gens dans. Ouais. C'est-à-dire de ces milieux-là, on les fait. On les subventionne, je dirais, la mairie. Leur propose des postes à la famille, par exemple, aussi des appartements et des choses comme ça. Donc, ce qui permet de maintenir le calme dans les cités. Quoi. Voilà.
Est-ce que dans ce, on peut dire que c'est un policier social comment on peut le décrire
Politico-réaliste.
Dans la réalité totale, dans le bain des cités de Seine-Saint-Denis.
Oui, tu disais que tu avais reconnu les
lieux,
complètement,
tu connais
bien cette
Aubervilliers, la Courneuve,
banlieue,
tous ces endroits-là, tout ce qui est nommé.
Et alors, c'est un ancien policier, l'auteur ?
Oui, il me semble bien.
Oui.
Il sait de quoi il parle.
Oui. Franck ?
Alors moi, j'ai apporté un livre que je n'ai pas encore lu.
Ah, ça, c'est bien.
Voilà. Mais que je connais bien l'auteur.
Alors ça, c'est intéressant. Alors tu vas essayer de nous expliquer justement le choix, en fait, quand tu es devant ton rayon de bouquins policiers dans une librairie. Qu'est-ce qui va t'attirer d'abord ? Tu vas prendre la quatrième de couve, tu vas lire le résumé.
Oui.
Et est-ce qu'il y a un genre, un style particulier qui va t'attirer ?
Déjà, il faut que je connaisse l'auteur. Et pour ça, je fais confiance à ceux qui m'entourent, d'ailleurs, des gens qui vont me dire, tiens, lis celui-là ou un tel, je pense que tu vas aimer. Quoi. Parce que j'ai un peu de mal à découvrir de nouveaux auteurs.
Donc à partir du moment où on te conseille...
Ouais. Parce que moi, mes choix, des fois, je suis assez déçu sur ce que j'ai pris. Et donc, j'ai pas trop envie d'être déçu à chaque fois. Et donc, je prends sur recommandation. Et donc là, moi, c'est James Ellroy, parce que je le connais depuis quelques années. Et j'étais tombé red dingue des premiers livres que j'ai lus. Donc, c'était la trilogie Lloyd Hopkins. Donc, il y avait La Lune sanglante, il y avait Brown's Requiem.
Il y avait un personnage central dans cette trilogie
En fait, il y a des personnages qui traversent le roman. Surtout chez les flics. Chez eux, donc un flic là, apparemment, c'est le début d'un des policiers qu'on retrouve assez régulièrement après, qui devient chef de la police, qui s'appelle Dudley Smith. Et c'est un flic. Chez James Ellroy, les flics sont souvent à la limite de l'honnêteté, quoi, on va dire. Il y a beaucoup de flics ripoux qui frôlent avec l'illégalité. Quoi. Donc, moi, j'aime bien parce qu'ils ont tous des fêlures. Ils sont tous. C'est pas le beau policier justicier, quoi. C'est souvent. Ils sont le nez dedans et ils sont pas toujours réglo pour pouvoir régler des enquêtes, justement. Donc, c'est ce qui me plaît chez lui. Quoi. Et il y a le contexte historique aussi. Bah, la quadrilogie qu'il a fait, le Quatuor de L.A., se passait entre les années 40, donc la découverte de Dahlia Noir, c'est-à-dire Betty Shirt, celle qui est morte dans un terrain vague, jusqu'à. Le Quatuor couvre jusqu'à l'élection de Kennedy. Donc, ça nous fait 20-25 ans de vie, enfin surtout de Los Angeles, parce que c'est la ville qu'il décrit régulièrement dans ses romans. Et donc le contexte politique, historique de la ville, quoi, et de l'Amérique aussi en ce temps-là. Quoi. Donc,
il nous fait une description de cette Amérique-là.
Voilà, le contexte historique, on pourra certainement y trouver aussi bien le macartisme que les choses qui sont passées. Quoi. Donc, la prohibition, la mafia, il est assez régulièrement cité. On a tous les traits qui font les mythes de l'Amérique. Quoi.
Ouais,
voilà.
Donc. Et les ressorts du roman policier sont là, c'est-à-dire il y a enquête, il y a crime,
il y a rivalité entre policiers, il y a collusion entre les criminels et la police, les trafics en tout genre, les meurtres. Les médias sont très présents aussi, surtout les journaux à scandale. On peut trouver, il y en a qui font des chantages, on trouve tout ce qui a fait... On peut même voir, par exemple, dans ça a été apporté à l'écran et c'est très bien aussi résumé à l'écran. Donc, on peut bien le voir. C'est génial. Donc là, moi, j'ai pris le dernier qui démarre une nouvelle quadrilogie qui se passe là pour l'instant, c'est au niveau de la guerre du Japon, donc c'est aux États-Unis. Et bon, je ne l'ai pas encore lu.
C'est une parition de cette année ?
Oui, l'année dernière, pardon. L'année dernière. Parce que là, il est paru en poche, donc ça fait D'accord. un an. Donc voilà.
Okay. Tu peux nous dire le titre ?
Alors, c'est Perfidia.
James Ellroy.
De James Ellroy.
Sorti en 2015.
Voilà, c'est ça. Donc, c'est mon prochain.
C'est un sacré pavé. Hein.
Oui, c'est mon pavé.
Corinne ?
Oui.
Je vois que tu as des petites notes.
Ah oui, oui, hein, moi j'ai besoin d'écrire. Voilà, aussi. Bah autant oui. besoin de lire que d'écrire.
Bah c'est ça.
Bah moi, la partie historique, le besoin de parler d'histoire aussi, bah oui, j'en ai besoin dans les livres, j'ai besoin de découvrir d'autres pays, j'ai besoin de découvrir d'autres mœurs, d'autres habitudes. Donc je suis assez ouverte. Alors j'écoute la radio, je lis les critiques qui sortent sur les bouquins. Et je choisis en fonction de ça. Alors c'est comme ça que j'ai découvert Robin Cook. J'étais Dora Suarez. J'ai trouvé que c'est extrêmement bien écrit. Celui qui cherche à trouver l'assassin se met dans la peau de celle qui a été tuée. C'est assez surprenant comme façon de procéder. L'histoire avec Philippe Kerr, la trilogie berlinoise, L'Hôtel Adlon, Vert de Gris, qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, est très très intéressante sur le nazisme, avec un regard interne, si je puis dire. Puisque le héros est un lieutenant, il me semble, nazi, enrôlé malgré lui. Comme quoi, on n'est pas toujours adepte de ce qu'on... Non.
C'est le personnage principal ?
Oui, c'est le personnage principal, avec des retours en arrière, avec... voilà. Mais tout se passe pendant la... Non, pas tout. Une bonne partie se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, et ensuite, il se réfugie, bien entendu, en Amérique du Sud, et on a une suite un petit peu. Et puis, j'ai un autre bouquin historique qui m'a beaucoup plu, qui se passe pendant la... juste après le franquisme, Victor de l'Arbol. Le titre, c'est La tristesse du samouraï, un auteur espagnol. Voilà, comme ça, ça me permet d'avoir un avantage. Et sur l'Amérique, pour rejoindre un peu ce que disait R.J. Ellroy.
Oui.
Avec des choses sur l'Amérique, sur la. Pas la mafia, mais la CIA, la NSA. Passionnant.
Oui, passionnant, tout à fait.
Qui décortique, étudie, remet en cause et donne envie d'aller voir ailleurs. C'est-à-dire que quand je lis un bouquin, souvent après je vais aller chercher ailleurs à compléter ce que j'ai appris à travers ce livre. Même si c'est un livre policier qui était pourtant, oui, maintenant un peu plus de valeur littéraire, mais qui n'en avait pas beaucoup avant. Moi.
Et donc si j'ai bien compris, ton intérêt pour la littérature policière, c'est vraiment que ça t'apprenne aussi,
en plus du suspense, plus de l'intrigue. J'aime aussi apprendre des choses, me retrouver comme dans le bouquin de Norek, là où là je connaissais les endroits, les lieux, ou alors partir ailleurs, oui, en effet.
On avait parlé ensemble d'un bouquin de
Caril Ferret.
Caril Ferret,
c'est excellent, ça. C'est excellent, voilà. Ça. Enfin,
qui se passe en Argentine. Afrique du Sud.
Alors, Mapuche, en Argentine.
Oui.
Et qui est le dernier paru. Il n'en a pas ressorti. Enfin, je crois que. Il y en a un nouveau, mais ouais, voilà, c'était le dernier, Mapuche.
Il en a sorti un dans la série du Poulpe aussi.
Oui, aussi.
Ah
voilà,
oui, qui est très
qui est hilarant.
Ah oui, là, oui, c'est
alors
drôle,
que tous les autres sont très violents, très noirs, là, il s'est lâché et il s'est amusé. Ouais. Il a fait un.
Il écrit pour les enfants.
Hilarant,
aussi.
Qui est très bien.
Oui, ouais, tout à fait.
Il écrit pour les enfants, il fait d'autres choses aussi. Hein.
Oui, oui, oui.
Et Mapuche, c'est excellent. C'est celui qui se passe en Argentine, mais les autres qui se passent en Australie.
Les dames sur la place de Mai.
Oui,
oui, exactement.
Voilà, avec encore une dénonciation de dictature, quelle qu'elle soit.
Mais, oui, sa caractéristique à lui, c'est qu'il il resitue l'action policière juste après des dictatures où il y a encore des gens qui sont très impliqués dans la société. C'est très bien fait parce que ça resitue le contexte et on sent bien le poids du passé, le poids de la dictature qui vient de disparaître. Très bien fait, ça. Ouais.
Puis ce sont effectivement des personnages. C'est marrant dans un peu tous les livres que vous avez cités. C'est vrai qu'il y a quelque chose d'une fragilité des personnages. Ils sont pas, il y a pas une notion de bien ou de mal chez les humains qui traversent en fait ces romans.
C'est les héros.
Que ce soit le terme de héros est mou. Je trouve aujourd'hui la littérature policière d'aujourd'hui est moins basée là-dessus. Avant,
c'est
pas Arsène
Lupin. Hein,
voilà. Voilà, exactement. Voilà, on n'est plus dans ce registre-là. Voilà, ni Sherlock Holmes. Et ça donne probablement un aspect déroutant aussi à la lecture.
Là, c'est pas un policier qui court après, hein, ça peut être n'importe qui. Dans un bouquin, c'est un bibliothécaire. Dans J'étais de race, dans au lieu de dire de Noir les temps, c'est le bibliothécaire qui fait une enquête sur ce qu'il a vécu dans le passé, dans son enfance. Et il fait une recherche, mais il n'a rien à voir avec la police, le criminel. C'est une recherche comme ça. Oui.
Et il y a des auteurs, alors là je connais moins, je ne sais pas si toi François t'as déjà lu, il y a des auteurs qui sont plus spécialisés dans le Moyen-Âge, toute cette période-là.
Ah oui.
Moi, à part Umberto Eco.
Oui, il y en a tout un paquet.
Ici que j'ai lu, qui s'appelle Imprimatur. Tu l'as encore, un gros pavé qui se passe au Moyen-Âge.
Oui.
Et pendant la peste en Italie, je crois. Et en fait, c'est sur la fuite. L'histoire, je ne me rappelle plus trop bien, mais c'était il y a un petit moment de ça. Et en fait, il y a une peste qui arrive dans une auberge. Donc, ils sont tous confinés à l'intérieur. Il y a des intrigues. Et c'est très historique. Donc, ça raconte l'histoire de France et aussi la fuite de Guillaume d'Orange vers l'Angleterre, qui a donné suite à la guerre contre le protestantisme.
Sans aller si loin, Jean-François Parot.
Oui, exact.
C'est excellent. En plus, alors une écriture.
C'est pas le Moyen-Âge.
C'est pas le Moyen-Âge.
C'est un roman historique. Voilà. C'est très bien fait.
Avec
très
une écriture.
Mais alors, c'est marrant parce que à la lecture de ce genre d'ouvrage, surtout les auteurs qui sont plutôt romans, littérature moyenâgeuse, quand on rentre dans le polar, on dirait vraiment. Enfin, moi, j'oublie que c'est un polar. Bien sûr, il y a une intrigue quand même parce que dans Jean-François Parot, je me souviens plus le nom du
il y en a plein,
il y a un inspecteur
Nicolas Le Floch.
Nicolas Le Floch, qui a été lui aussi adapté d'ailleurs. Oui. On n'arrête pas.
Hein. Moi, à part Le Nom de la Rose de Umberto Eco,
qui est un excellent roman.
Ouais. Oui. Il y a une intrigue.
Extraordinaire. Voilà. Oui, c'est construit comme un roman policier.
Voilà, ouais. Moyen-Âge.
Pas de souci.
Ouais, tout à fait. Ouais. François, tu voulais nous parler d'un autre livre
Oui, j'en ai tout un. Ouais. Je ne sais jamais par lequel commencer.
Douglas Kennedy.
Piège nuptial. Bon, c'est pas proprement parler. C'est pas un roman policier dans le sens où il n'y a pas de mort. Mais par contre, toute l'intrigue est du type policier. Il n'y a pas de souci. Et c'est à la fois angoissant, amusant. C'est vraiment.
C'est des personnages qui n'ont pas beaucoup de chance. Hein.
C'est des personnages qui n'ont aucune chance. Ça commence par une belle rencontre amoureuse et ça se termine par une fuite d'une espèce de secte.
Alors, c'est Piège nuptial de Douglas Kennedy. On peut le trouver en poche, qui est prolixe aussi.
Il a écrit énormément de choses.
Énormément,
oui. Mais c'est toujours Douglas Kennedy, c'est toujours un bonheur à lire.
Moi, j'aurais voulu qu'on évoque aussi un auteur français, Jean-Claude Izzo.
La trilogie.
Trilogie. Ouais. Parce que c'est. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve qu'il est un peu à part, lui aussi, dans le paysage.
Il n'y a que la trilogie, déjà.
Il est décédé très jeune.
Bon, il a écrit un roman aussi, ou deux, je crois.
Il a écrit de la poésie.
La poésie.
Voilà. C'était un universitaire, donc il a une qualité d'écriture aussi. C'était quelqu'un de baigné dans la littérature. Quoi.
Mais on sent, quand il parle de sa ville, Marseille, on sent une... c'est très touchant.
C'est pas gay.
C'est vrai qu'il faut être en forme.
C'est pas gay et il s'intéresse beaucoup aux petites gens, aux laissés pour compte de la société. Donc c'est aussi ce qui fait son charme,
Jean-Christophe Granger.
Oui. Vas-y, Franck.
Moi, je vais bientôt acheter Jean-Christophe Granger. Il en a sorti deux. Il s'appelle Lontano et Congo Requiem.
Je crois. Bien des deux.
Et j'attends qu'ils sortent en poche. Donc, j'ai été les voir à la librairie, mais ils ne sont pas encore sortis en poche.
Et il rejoint un petit peu Karine Ferret dans quand il dénonce les dictatures, parce qu'il a fait quelque chose comme ça, Granger. Un voyage en Amérique où justement...
J'ai pas lu celui-là, mais j'ai lu celui qui s'appelle La Ligne Noire. D'ailleurs, j'ai entendu une interview de lui qui disait que c'était son meilleur roman qu'il avait écrit. Et je l'ai trouvé... C'est ce qu'il a dit. Il l'a dit, lui.
Moi, j'ai lu à peu près tous ceux qui sont venus avant lui. J'ai pas trouvé que La Ligne Noire était le meilleur, mais bon.
Bah, lui, il considère que c'est son meilleur qu'il a écrit. Et c'est ce que j'ai entendu il y a pas très longtemps. Et je l'ai lu aussi et j'ai trouvé vraiment très.
Alors, ton avis ? Tu peux nous raconter rapidement ?
Si vous voulez, c'est un tueur qui, un Français qui fait de la plongée sous-marine et qui se retrouve en Asie du Sud-Est, donc au Vietnam, je crois. En fait, il assassine des femmes.
C'est un serial killer, donc.
Ouais, voilà. Et en fait, il est, la situation, je dirais, est assez compliquée parce qu'il est des cabanes, il les rend hermétiques. Il étouffe ses victimes à l'intérieur, le sang change de couleur et il badigeonne les victimes avec un genre de miel royal, ce qui fait que quand ils font, tout il se vide complètement à un moment donné. Quoi. Et donc on a un espèce de tueur, mais complètement barré, qui s'appelle Jacques Reverdy d'ailleurs, le tueur. Et donc il y a en France, il y a, je crois que c'est un journaliste, enfin, qui fait une thèse de.
Non, c'est un journaliste.
Oui, c'est un journaliste. Et
il se fait passer. Il a perdu sa femme dans des conditions. Avec... Il a des moments de coma profonds pendant des mois. Il est coupé de la vie.
Voilà.
Et, ouais.
Et après, il se fait passer pour une étudiante. Il va voler sa carte d'étudiante et tout. Et il va essayer de rentrer en contact avec ce fameux tueur. Et il va se louer une relation entre les deux. Et finalement. Lui, il va couper les liens, le journaliste, et en fait, finalement, l'autre, il va essayer de la retrouver, parce qu'il croit que c'est toujours cette femme qui est... Et donc, il va se sauver. Et voilà.
Tu ne racontes pas la fin.
Je ne raconte pas la fin. Voilà, je m'arrête.
Tu t'arrêtes là.
Et non, j'ai trouvé génial. Quoi.
Tu peux juste rappeler le nom et l'auteur.
Alors, c'est La Ligne Noire de Jean-Christophe Granger.
Corinne,
tu voulais rajouter... Des auteurs français, il y a Franck Tillier aussi, qui écrit en s'inspirant de recherches scientifiques qu'il a fait. Il fait des études avant de vérifier des choses sur la mémoire et ensuite il met en pratique ce qu'il a trouvé dans ses recherches scientifiques au travers de policiers. Et puis il y en a un qui a eu un prix Goncourt pour un livre qui n'est pas policier, mais moi j'ai adoré, c'est Pierre Lemaître. Les livres de... avec une trilogie, un petit héros, un petit flic, un petit inspecteur ou un petit commissaire, je sais pas, qui
oui,
haut comme trois pommes là, qui est extra. Alors en plus, ouais,
commissaire Charcot,
très très bien écrit. C'est ce qui est agréable. Bon, c'est lui qui a écrit Revoir là-haut.
Ça fait plusieurs fois que tu dis c'est bien écrit. Alors ça,
bah oui.
C'est-à-dire.
Ah bah ça fait partie.
T'es sensible,
des,
voilà. Voilà, à
alors,
ça quoi.
Je peux lire des choses qui à mon goût sont peut-être pas forcément aussi bien écrites. Je suis assez embêtée avec les traductions. Alors quand je lis Idridason, l'auteur islandais, au niveau de la traduction ou de l'écriture, je la trouve voilà, pas très intéressante.
Ouais.
Bon. Par contre, ce sur quoi il se base pour écrire, pour trouver ses idées, c'est toujours très bon. Et ça permet aussi de faire un peu d'histoire, de découvrir un peu l'Islande, voilà. L'écriture. Voilà.
Le problème des traductions, c'est qu'on ne sait pas si c'est l'auteur
voilà.
qui écrit pas terrible
voilà.
ou si c'est le traducteur qui ne sait pas casser l'oignon.
Alors, voilà. Comme j'en sais rien, je. Bon.
C'est ça. Tu Donc, as très bien résumé la problématique.
Alors, je lis avec moins de plaisir que ouais. voilà, quand, ouais. Quand je trouve qu'en plus, il y a l'écriture qui va
ouais.
avec.
Ouais. C'est important, l'écriture,
important.
Parce
ouais.
que.
Ouais.
Même une belle intrigue très mal écrite, on n'a pas de plaisir.
Ça prend
pas. On n'a pas de plaisir. Hein.
On a du mal à le finir.
Le plaisir vient d'un ensemble. Il faut qu'il y ait une intrigue et puis une écriture. C'est essentiel. Et puis, il faut aussi que ça se raccroche à des choses, que ça nous renvoie à d'autres connaissances. Voilà, pas tourner en rond sur rien, quoi.
Et est-ce que ça vous est arrivé, par exemple, de prendre un polar et d'être tellement happé par le suspense, par l'intrigue, par l'histoire, de ne pas vouloir le lâcher, de
oh.
lire
oh, oui.
Toutes les nuits.
Presque, oui.
J'en étais sûre. Je ne sais pas pourquoi je le sentais.
Ah oui, bah oui.
Oui, et vous pensez que ça c'est propre à la littérature policière ?
Oh non,
non. Un bon livre. Ouais. Ouais. Moi, j'appelle ça le syndrome encore un chapitre. C'est-à-dire que quand je termine un chapitre, j'ai encore un. Donc, j'arrive de fil en aiguille, j'arrive au bout du livre.
Ouais. Et une fois le livre terminé, est-ce que vous arrivez à vous en souvenir?
Je suis énervée, moi. Ça m'énerve d'arriver à la fin d'un livre. Ah, ben, à chaque fois, ça m'énerve.
T'aurais envie que ça continue?
Ah ouais, et ça, c'est pas possible, mais je... Bon, bah, ça y est, c'est fini. Je suis avide, j'ai envie de lire ou autre chose du même auteur. Ou voilà, ça déclenche.
Alors, du coup, tu ne lis que du roman policier?
En ce moment,
en
oui.
En ce moment, ouais.
En
que
ce
ça.
Moment. Oui, en ce moment, je fais que ça. Mais comme j'ai beaucoup lu autre chose avant, je me dis, bah, ça doit être des périodes.
Franck, toi aussi?
Non, pas dernièrement. J'ai dû retaper Le Seigneur des Anneaux. Les trois, plus le Silmarillion, donc quatre livres en trois semaines. Là, donc, mais là, je vais me remettre au roman policier, ouais. Oui, parce que, mais je ne m'arrête pas qu'au roman policier. Hein. Donc avant, j'ai lu Ken Follett, la série du siècle. Génial. J'ai pratiquement pas dormi. Quoi.
Voilà. Producteur de best-sellers, dont le merveilleux Pilier de la Terre.
Oui, et la suite. Suite. Ouais. Et là, La série du siècle, je l'ai littéralement, j'ai pas pu m'arrêter si facilement quoi. C'était vraiment génial.
Ce qui me fait sortir d'un policier, c'est un auteur comme ce que je vois là, Carlos Ruiz Zafón.
Oui.
L'ombre du vent.
L'ombre du vent.
Ça, voilà. Ça, en fait, j'ai pas fait que des policiers parce que voilà.
Ouais, tout à fait. Mais là aussi, il y a un suspense, il y a une intrigue,
il y a un petit suspense quand même. Recherche.
Ça pique un peu quoi. Ouais. Hein. François, tu alternes, toi, entre...
Oui, j'alterne, mais j'aime bien lire de l'histoire. Donc, policier, histoire, j'alterne. Voilà.
Et est-ce que vous avez l'impression que c'est, en lisant du policier, c'est un moment de détente?
Ah, oui.
Par rapport à l'histoire, ça demande moins de concentration. On avance, voilà, il y a moins de choses à se souvenir, il y a moins de choses à mettre de côté, mais...
Oh, avec R.J. Ellery dans Les Anonymes.
Il faut aussi.
Ah bah dans Ellroy, il y a tellement de personnages qu'il faut bien.
Aussi,
ça dépend des auteurs quand même. Hein.
Il y a effectivement le livre qu'on va lire très vite.
Mais si tu veux, quand c'est dans un policier, il faut s'en souvenir le temps qu'on lit le policier. Voilà. L'histoire, on est censé conserver ça ad vitam aeternam. C'est pas la même démarche.
Dans Philip Kerr, je trouve que l'histoire, elle reste.
Elle est très importante.
Parce qu'elle est très importante. Oui.
Il y a d'autres choses aussi dans les romans policiers. Par exemple, j'ai celui-ci de Paula Hawkins, La fille du train. Et là, en fait, on est dans la peau d'une alcoolique. Donc, on voit par ses yeux le monde comme si on était soi-même alcoolique. Donc, ça apporte d'autres lumières.
Voilà. On est dans la peau du personnage principal.
On est dans la peau d'un personnage qui a quelque chose que... Bon.
Donc la narration est à la première personne, en fait.
Franck, tu vas sortir.
oui, mais souvent, elle est à la première personne. Et c'est une fille qui est dans le train tous les jours et qui voit une scène se dérouler. Et bon. Mais comme elle est tellement alcoolique, elle n'est jamais sûre de ce qu'elle a vu ou pas vu, de la réalité, de la non-réalité. Et on progresse comme ça avec elle jusqu'au dénouement. Et
La fille du train qui a été adaptée récemment au cinéma. Voilà. Tu peux rappeler l'auteur?
Paula Hawkins. Hawkins, oui.
Corinne, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose par rapport à tes choix? Peut-être on va terminer par un conseil pour les vacances de Noël. Vous n'avez pas un petit conte noir de Noël?
D'un auteur un peu moins récent, là, Thomas H. Cook, Au lieu dit Noir les temps. Ouais. Je parlais de l'écriture parce que ce que j'aime aussi, c'est quand je lis, je vois ce qui se passe. Et ça, c'est important.
Donc ça développe ton imagination immédiatement et tu pars...
Voilà, et c'est le cas de Au lieu dit Noir les temps de Thomas Cook. Ça, c'était vraiment flagrant de voir les choses. Et puis, Ma puche de Caryl Ferret ou La tristesse du samouraï de Victor Del Arbol pour changer complètement de style. Parce que là, c'est...
On voyage, on apprend.
Voilà, on apprend, on est toujours un peu dans l'histoire quand même.
Oui. On a bien compris que c'était ton truc. Franck?
Non. Mais à part aussi Maxime Chatham que j'avais lu là.
La promesse des ténèbres.
Ouais.
Tu te souviens un petit peu de...
Ouais, c'est l'histoire d'un journaliste aussi. Et il y a une nana qui se tue devant lui. Elle se suicide et il va dans les bas-fonds de New York. Et bon, c'est un peu étrange comme livre, mais c'est pas mal. Mais j'étais un peu réticent à Maxime Chattam, mais finalement, non, j'ai apprécié quoi, celui-là.
François, tu nous donnes un petit ou deux petits conseils ?
Oui, bah, un des livres que j'ai lu récemment et qui m'a bien intéressé, c'est de Chris Nelscott, Blanc sur Noir. Ça se passe dans les années 60 aux USA et c'est sur fond de racisme. Et là, on voit à quel point dans les années 60, être noir était difficile et à quel point leur vie n'avait pas d'importance... pour les blancs.
Ouais, tout à fait. Donc, très bon bouquin. Ouais.
Très bon bouquin. Ouais.
Un deuxième, hein. Vas-y. Hein.
Oh, après, il y a des. Bon, alors, j'aime bien aussi aller voir dans les autres pays. Le Desma, bon, c'est pas un livre extraordinaire, mais bon, c'est un espagnol. Alors, bon, on change. De... Et parfois, il y a des choses qui sont pas non plus des merveilles, mais ça m'amuse. Par exemple, on a Estelle Monbrun, Meurtre chez Tante Léonie. Donc pour les Proustiens, c'est un petit sucre d'orge.
Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose pour terminer cette émission ?
Une petite bière ?
Une petite bière, ah bon, ça je vais couper ça. Eh bien, je vous remercie vraiment tous les trois d'avoir participé à cette émission. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Merci, parce que vous êtes des lecteurs passionnés et ça se sent. Du vent dans les pages continue avec la chronique d'Alice à l'abordage et Mométis. À très bientôt sur Studio Zef.
À l'abordage !
Des essais contre les idées reçues. Nous allons parler plein emploi aujourd'hui avec un tout petit livre, une note de la Fondation Copernic, intitulée « Le plein emploi, c'est possible », sous-titré « Éléments pour une politique de gauche », et c'est paru aux éditions Sileps. Alors avant tout, il faut bien mettre les choses dans leur contexte. Avec un slogan qui dit « Pour remettre à l'endroit ce que le libéralisme fait fonctionner à l'envers », la Fondation Copernic n'est pas vraiment positionnée à droite. On lui doit la structuration du mouvement pour le non au traité constitutionnel européen, des campagnes contre la réforme des retraites, contre le logement cher ou pour les droits des homosexuels. Dans cette note de 70 pages, donc, la Fondation Copernic met en avant les ratés des multiples réformes mises en place par les gouvernements successifs, de droite comme de gauche, censés avoir créé de l'emploi, et elle propose quelques pistes de réflexion pour tendre vers le plein emploi. D'abord, la note pointe l'absurdité des allègements de charges sociales qui seraient l'arme magique de la réduction du chômage, selon une équation ultra simple. Moins un salarié coûte cher, plus l'entreprise en emploie. Selon une étude du Conseil d'orientation pour l'emploi, le COE, étude parue en 2013, les allègements de cotisations sociales auraient permis la création de rien de moins que 800 000 emplois. Sauf que la Cour des comptes ne valide pas tout à fait ces chiffres. En 2006 et 2009, elle critiquait déjà les rapports du COE en demandant, je cite, que des travaux fondés sur des outils de simulation adaptés voient le jour rapidement sur un sujet aussi important. Et puis le souci, c'est que plus les salaires sont bas, plus les exonérations sont importantes. Bilan des courses, alléger les salaires crée peut-être de l'emploi, mais de l'emploi précaire et mal payé. Premier point. Ensuite, il s'avère que l'allègement du coût du travail ne rapporte pas tant aux salariés qu'aux actionnaires. La note montre clairement que quand les cotisations sur les salaires diminuent, la part des dividendes augmente. De la même manière, alors que les allègements de cotisations sociales sont censés aider les entreprises à investir, et donc à créer de l'emploi, la courbe de l'investissement ne progresse pas comme elle le devrait. Résultat, l'État dépense des milliards d'euros pour aider les entreprises à créer de l'emploi qui ne voient pas le jour. Or, pour financer ces milliards, l'État gratte partout, notamment dans les budgets des collectivités locales, lesquelles, du coup, rognent sur la masse salariale et sur les projets d'investissement. Soit, au total, moins d'emplois publics et des entreprises locales en grande difficulté, faute de marché public. Vu comme ça, c'est sûr qu'on peut s'interroger quelque peu sur l'efficacité des aides publiques en matière d'emploi. Enfin, la Fondation Copernic bat en brèche les affirmations comme quoi plus on flexibilise le marché de l'emploi, plus le taux d'emploi est élevé. Elle cite l'OCDE et le FMI qui émettent de sérieux doutes sur le rapport entre flexibilité et création d'emplois. Il y a même une étude qui explique clairement que, je cite, « les tentatives de lutter contre le chômage par la déréglementation pourraient être futiles ». Alors bon, bah, c'est bien joli de critiquer, mais qu'est-ce qu'elle propose la Fondation Copernic pour tenter d'atteindre le plein emploi ? Bah, sans surprise, de cesser la politique d'austérité. Parce que c'est sûr que c'est pas en baissant les dépenses publiques de 70 milliards d'euros pour respecter le fameux déficit budgétaire de 3% et de 50 milliards d'euros pour financer les programmes d'aide aux entreprises que l'État va pouvoir relancer l'investissement et créer de l'emploi. Pourtant, le secteur des énergies renouvelables pourrait visiblement être un formidable levier de développement économique. Et tiens, comme c'est curieux, la Fondation Copernic rejoint là l'économiste Gaël Giraud. Alors, autre idée, la semaine de 32 heures payée 35 pour rééquilibrer la part des salaires dans la valeur ajoutée. Alors là, soyons honnêtes, je suis pas certaine que les PME puissent suivre. Cela dit, la note envisage une loi de solidarité des grands groupes capitalistes envers les petites entreprises. L'idée, en fait, ce serait de regrouper toutes les cotisations dans une caisse commune appelée Caisse de solidarité du travail, qui viendrait en aide aux TPE pour assurer la continuité des salaires et des droits sociaux dans les périodes de non-emploi. Alors, plus radical, la Fondation Copernic propose de taxer la distribution des profits non réinvestis pour encourager en fait les entreprises à investir plutôt qu'à faire exploser leurs placements financiers et puis la part de leurs dividendes dans le PIB. Et puis, elle propose aussi de réorienter le crédit bancaire aux entreprises vers des investissements qui répondraient à des critères écologiques et sociaux. Bref, des idées qui sont pas si farfelues que ça, et puis qui mériteraient peut-être d'être débattues à l'occasion des campagnes à venir, pourquoi pas. D'ailleurs, allez savoir, à force de les entendre dans la bouche des économistes hétérodoxes, bah, peut-être qu'elles vont finir par se faire une place dans le débat public, ces idées. Enfin, quoi qu'il en soit, moi je vous conseille la lecture de ce petit ouvrage, ça s'appelle donc « Le plein emploi, c'est possible », dans la collection Les Notes de la Fondation Copernic, aux éditions Sileps.
De l'occasion pour te faire la conversation devant mes propos platoniques, tu es resté sans réaction avec un air énigmatique. Tu as pris le chemin de l'exit, ce corps à corps télépathique a tourné à ma confusion. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Et j'ai eu la révélation. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Ça m'a fait l'effet d'un déclic, comme une décharge électrique, comme une secousse magnétique. Et j'ai eu la révélation.
Dans les pages sur Studio Zef. Mométis, la poésie voyageuse. Parmi les 10 langues les plus parlées au monde, il y a le portugais, langue latine, puisant son origine vers 218 avant Jésus-Christ. Entre le 5e et le 7e siècle de notre ère, les invasions barbares détruisirent l'unité politique romaine. La coupure des relations avec Rome accéléra l'apparition de particularismes locaux d'où sont sorties les 3 grandes langues de la péninsule ibérique, le castillan, le catalan et le portugais. Le royaume indépendant du Portugal signe la renaissance de la langue nationale dès le 13e siècle. Aujourd'hui, on parle portugais au Brésil, pays lusophone le plus important du monde, en Asie, en Afrique, au Cap-Vert ou encore au Timor oriental dans l'archipel indonésien. Née en France de parents portugais, Christine parle uniquement sa langue maternelle jusqu'à l'âge de 5 ans. Elle n'a pas le souvenir d'une quelconque difficulté pour apprendre le français et restera très attachée à cette langue de l'enfance qui, dit-elle, touche son âme. Et dans la poésie de Fernando Pessoa, dame, il en est perpétuellement question.
Fernando Pessoa est un poète portugais né en 1888 et mort en 1935, pauvre et inconnu du grand public. Pessoa, personne en portugais, vit une partie de son enfance en Afrique du Sud. Adolescent, il s'installe à Lisbonne où il déambule entre villes basses et hautes. Il ne publiera quasiment jamais sous son nom. Poète incompris de son vivant, il a entassé dans une malle plus de 27 000 manuscrits signés de 72 noms différents, comme s'il voulait à lui seul être le représentant de la littérature portugaise. Je vais à présent vous lire 4 poèmes de Fernando Pessoa. Le premier est intitulé « Sou guardador de rebanhos ». « Sou guardador de rebanhos. O rebanho é o meus pensamentos. E os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la, é cheirá-la. E comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor me sinto triste de gozá-lo tanto e me deito ao comprido na erva e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade. Sei a verdade e sou feliz. Sim, sei bem que nunca serei alguém. Sei de sobra que nunca terei uma obra. Sei, enfim, que nunca saberei de mim. Sim, mas agora, enquanto dura esta hora, este luar, estes ramos, esta paz em que estamos, deixem-me crer o que nunca poderei ser. O amor, quando se revela, não se sabe revelar. Sabe bem olhar para ela, mas não lhe sabe falar. Quem quer dizer o que sente, não sabe o que há de dizer. Fala, parece que mente. Cala, parece esquecer. Ah, mas se ela pudesse adivinhasse, se pudesse ouvir o olhar, e se um olhar lhe bastasse, para saber que estão a amar. Mas quem sente muito, cala. Quem quer dizer quanto sente, fica sem alma nem fala. Fica só, inteiramente. Mas se isto puder contar-lhe, o que não lhe uso contar, já não terei que falar-lhe, porque lhe estou a falar. Dizem, esquecem. Não dizem, disseram. Fazem, fatal. Não fazem, igual. Por que esperar? Tudo é sonhar.
Quinta face, core dia nada encatacho, desespero, mamu. vida triste, vida amargado. Pensa no timo quinta fase, core dia nada encatacho e desespero, mas Deus é grande. Minha filha aperta a cintura, cabo desanima não. Cadado de mão beijado, tem que ter força de vontade. Na pobreza e prospera tempo, leva com coragem nos dia a dia. Minha filha aperta a cintura, cabo desanima não. Vira cadado de mão beijado, o tem que ter força de vontade. Na pobreza
Dans les pages, c'est terminé. Je remercie chaleureusement tous les participants de cette émission. Je vous invite à nous retrouver le mois prochain sur Studio Zef. À très bientôt.